enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Ce matin, mon thème sera un esprit supérieur. Un esprit supérieur. Et nous lirons ensemble dans le livre de Daniel, chapitre 6, verset 3. Je lis une première fois dans la version Louis II, puis je relirai dans la version Darby. Chers amis téléspectateurs, je vous invite à prendre votre Bible si vous en avez une. Et sinon, écrivez-nous et nous vous renverrons une Bible avec joie. Elle sera gratuite aujourd'hui. Daniel, chapitre 6, verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Dans la version Darby, je lis là le verset 1 à 3, « Il plut à Darius d'établir sur le royaume 120 satrapes, pour qu'ils fussent dans tout le royaume, et au-dessus d'eux, trois présidents, dont Daniel était l'un, pour que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Et ce Daniel surpassa les présidents et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire, et le roi pensa à l'établir sur tout le royaume. » Il y avait en lui un esprit extraordinaire. Frères et sœurs, Daniel, un homme dans lequel il nous est dit habite un esprit supérieur, voire extraordinaire. Un homme qui, bien sûr, n'avait pas un esprit de supériorité. Lorsque je parle d'esprit supérieur, il ne s'agit pas d'esprit de supériorité qui est le reflet de l'orgueil dans une vie. Je dirais que très souvent, eh bien, les gens ont plus facilement l'esprit de supériorité que l'esprit supérieur que Daniel avait. Et les deux n'ont rien à voir et les deux ne peuvent se compléter. Daniel, un esprit extraordinaire reposait sur lui. Maintenant, écoutez. Daniel avait été amené esclave en Babylone alors qu'il avait environ 17 ans. Cet adolescent, appelons-le comme ça, ce jeune homme, eh bien, sera là loin de son pays, loin de sa patrie. Celui qui régnait sur Babylone n'était pas son roi à lui, ce n'était pas son souverain. Il était loin de sa famille, sans repère familial, isolé émotionnellement, sentimentalement. Un jeune homme qui se trouve dans un pays où l'on adore des dieux païens. Un jeune homme qui se trouve dans un pays où les faux dieux se trouvent en multitude. Mais un homme dans lequel habite un esprit supérieur, et cet esprit qui habite en lui va amener cet homme à être élevé au rang le plus haut de ce pays pour l'amener jusqu'au stade où un roi, le roi Darius, dira la chose suivante. Écoutez-moi. Après ça, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Voilà la confession d'un roi païen. Mon frère, ma sœur, la confession d'un roi païen qui sera bouleversé par un esclave, un homme en qui jamais personne n'aurait pu voir le grand homme qu'il allait devenir. Vous êtes peut-être là ce matin comme Daniel. Vous n'avez pas eu de parents. Voire vous avez été orphelin. Vous êtes peut-être étranger dans ce pays. Et vous vous posez la question, mais Dieu peut-il faire quelque chose avec moi? Humainement parlant, rien n'est fait pour vous de manière à ce qu'un jour vous soyez élevé. Mais j'aimerais vous dire, de la part de Dieu, qu'il a pour vous en réserve un esprit supérieur. Mon frère, ma sœur, remarquez, comme Daniel, nous sommes nous aussi étrangers et voyageurs sur la terre. Vous souvenez-vous de cela? Regardez ce que dit Pierre dans 1 Pierre 2, verset 11. Chers amis téléspectateurs, c'est la même chose pour vous dans la mesure où vous avez reçu le Christ. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs. À quelque part, nous sommes tous des gens du voyage. En d'autres mots, nous sommes tous des gitans. Nous sommes tous des nomades. Notre patrie n'est pas ici. Le roi que j'aime et que je sers n'est pas celui de mon pays, même si j'honore et je respecte celui que mon peuple a élu. Mais le roi qui est au fond de mon cœur appartient à un autre royaume. Et mon royaume n'est pas d'ici. Notre royaume, frères et sœurs, est là-haut. Et nous ici, nous ne sommes finalement que comme Daniel, des étrangers et des voyageurs sur la terre. Nous passons et nous nous en irons un jour pour rejoindre la patrie céleste, celle dans laquelle nous attend notre roi, notre Dieu, le royaume dans lequel il nous établit. Bien-aimés, Jésus dira dans Jean 17, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi je ne suis pas du monde, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, dit Jésus, je ne suis pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. Cependant, de tout cœur, je crois que nous avons un rôle à jouer dans ce monde. Daniel va être utilisé pour influencer tout un royaume, celui de Babylone qui était le plus grand royaume de l'époque. Vous allez être choisis et utilisés, non pas pour être influencés par le monde, mais pour influencer le monde. Daniel n'a pas été influencé par Babylone et est devenu païen, et est devenu adorateur de faux dieux. Non, Daniel a maintenu sa position en adorant le seul et le vrai Dieu. Résultat et conséquence, c'est le monde païen qui l'entourait qui a changé. Ça, c'est la différence, frères et sœurs. Et ça doit être la différence que nous produisons. Il y a deux sortes de chrétiens. Il y a les chrétiens thermomètres et les chrétien thermostat. Vous ne saviez pas, hein? Il y a les chrétiens thermomètres et les chrétiens thermostat. D'abord, le thermomètre se promène souvent à des endroits pas très agréables. Vous êtes d'accord? Ensuite, le thermomètre a ceci de particulier, c'est que sa situation change en fonction de l'endroit où il se trouve. Ce n'est pas lui qui influence le lieu, mais c'est le lieu qui l'influence lui. Le chrétien thermostat, comme le thermostat est dans un lieu, et c'est lui qui va donner la note. C'est lui qui va donner la température, et ce n'est pas la température qui va l'influencer, lui. Ce matin, quel genre de chrétien sommes-nous ? Ne levez pas votre main pour me répondre. Si vous êtes thermostat, que Dieu soit béni, continuez. Mais j'aimerais proposer au thermomètre d'évoluer. J'aimerais vous proposer d'aller plus loin. Car voyez-vous, lorsque je reçus ce message à cœur, je savais qu'il y avait là une parole de Dieu pour toute l'Église. Il y avait en Daniel un esprit supérieur. Maintenant, d'où lui venait-il ? Dans Daniel 1, verset 17, nous lisons. Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science et de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. C'est Dieu qui leur a donné cet esprit extraordinaire. Et par l'esprit extraordinaire qui les habitait, eh bien Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego vont être amenés à faire des choses extraordinaires. Moi j'aimerais dire qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés non pas à l'ordinaire, mais à l'extraordinaire. J'aimerais que nous puissions commencer à nous réjouir et arrêter de voir la vie chrétienne comme une vie misérable dans laquelle on ne prend que des coups, dans laquelle on est appelé à n'être que martyr. J'aimerais te dire que nous avons un Dieu extraordinaire qui a des enfants extraordinaires pour faire des choses extraordinaires. Quelqu'un m'a dit, moi je ne crois pas aux extraterrestres. Je lui dis, moi non plus. Mais depuis que j'ai reçu Jésus dans mon cœur, je suis devenu un terrestre extra. Il n'y a pas d'extraterrestres, mais il y a des terrestres extra parce qu'il y a un autre esprit en eux. Il y a un esprit extraordinaire. Comme eux, nous avons reçu cet esprit. Écoutez ce qu'il est dit dans Actes 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Chers amis, mais vous, regarde ton voisin, dis-lui, mais toi. Chers amis téléspectateurs, mais vous qui nous regardez maintenant, la même promesse est pour vous. Est-ce que vous avez peur de regarder votre voisin ce matin? Dites-lui, en le regardant dans les yeux, mais t'as reçu le même esprit. Parce que ça va nous amener tout à l'heure à une question profondément décisive et déterminante. Papa Jean, tu as reçu cet esprit extraordinaire, ce qui t'a amené à faire des enfants extraordinaires. Oh, de temps en temps, quand même, il faut que je me fasse du bien. Hein. Oui, c'est. Écoutez bien ce qu'il a rajouté, spirituel. C'est-à-dire que ça ne s'adresse pas à nous, à moi, à nous tous. Amen. Maintenant, on continue. Acte 3, 4, versets 13 et 14. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Au verset 29, « Et maintenant, Seigneur, vois leur menace, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Le Saint-Esprit n'est-il pas cet esprit extraordinaire? Le Saint-Esprit n'est-il pas cet esprit supérieur? Cet esprit, l'homme sans Dieu ne peut l'avoir. Il peut avoir un esprit de supériorité, oui, mais pas l'esprit supérieur venant de Dieu. Cependant, ma question, et elle est fondamentale, arrive. Nous sommes des hommes extraordinaires pour faire des choses extraordinaires avec un Dieu extraordinaire. Nous lisons que Shadrach, Meshach et Abednego furent jetés dans la fournaise ardente, chauffés 7 fois plus que d'habitude. Les soldats qui les y jetteront seront eux-mêmes tués par la chaleur. Eux, dans le feu, n'auront même pas leurs vêtements qui sentent le brûler. Daniel est jeté dans la fosse aux lions, et le matin on le recherche, les lions avaient eu la gueule fermée toute la nuit. Il nous est dit ici que les disciples priaient qu'ils se fassent des miracles, des signes et des prodiges par le nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'ils furent remarqués. La Bible dit qu'ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près de l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Bien-aimés, chers amis qui nous regardez, un même esprit habite en nous. Pourtant, ce matin, mon constat, c'est que nous ne voyons pas les mêmes choses extraordinaires que ces hommes-là voyaient. Mon constat ce matin, nous ne vivons pas encore la dimension de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Nous ne vivons pas la dimension de Pierre, Jean et des apôtres. Conscient que Jésus n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Conscient que Dieu est toujours au zénith de sa gloire et de sa splendeur. Conscient que le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob est notre Dieu. Quelqu'un a changé. C'est nous qui avons changé. Et je vous propose de chercher des éléments de réponse dans la vie de Daniel ce matin. Pourquoi un homme comme Daniel avait-il une telle autorité, une telle capacité et une telle démonstration d'humilité? Qu'est-ce qu'il a de différent de nous? C'était un homme comme nous, né d'une mère et d'un père comme nous. C'était un homme qui a souffert comme nous, amené en esclavage, sans père ni mère, dans une patrie qui n'est pas la sienne. C'est autant de choses que nous pourrions dire ce matin et que nous pourrions invoquer peut-être même comme pour justifier notre faiblesse ou notre manque d'autorité. Cependant, je crois que la réponse se trouve dans son attitude envers Dieu. Et j'aimerais voir quelques caractéristiques avec vous. La première, dans la vie de Daniel, il y avait une caractéristique remarquable qui apparaît dès le premier chapitre du livre de Daniel. Il nous est dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Première caractéristique d'un homme extraordinaire, sur lequel repose un esprit extraordinaire et qui sert un Dieu extraordinaire, le refus de se souiller. Une vie sanctifiée. Une vie sanctifiée. Lorsque Daniel prendra la position de ne pas prendre des mets souillés de la table du roi, j'aimerais vous rappeler qu'il risquait sa vie. J'aimerais vous rappeler que le chef des eunuques, à tout moment, aurait pu le faire exécuter pour refus d'obéissance. Mais dans le cœur de Daniel, il n'y a pas de compromission possible entre le Dieu qui le sert et la menace qui repose sur lui. Il a 17 ans. Frères et sœurs, il n'a pas 30 ans, il n'a pas 40 ans, il n'a pas 50 ans, il a 17 ans. Mais une détermination en lui, sans faille. Je ne prendrai pas des mets de la table du roi. Remarquez, il ne s'agissait là que de nourriture. Pourquoi est-ce que je précise cela? S'il s'était agi de débauche, s'il s'était agi de prostitution devant des idoles, dans des temples, auxquels il aurait refusé de participer, nous aurions pu tous dire « Oui, on comprend ». Mais là, il ne s'agissait que de nourriture. Ce que je veux dire par là, c'est que Daniel avait un sens élevé de ce que signifiait l'impureté. Il n'avait pas une notion de un petit peu impur et beaucoup impur. Il aurait pu dire, écoute Dieu, si tu avais voulu que je mange pas de cela, tu n'aurais pas laissé les ennemis m'amener esclave. Écoute, je n'ai que 17 ans, je n'ai plus ni père, je n'ai plus ni mère, je n'ai plus de référence. Écoute, je risque ma vie. Alors tu peux comprendre que dans telles circonstances, je ne peux pas faire autrement que de me soumettre à ce que l'on exige. À aucun moment il le fait. Même pas la pensée de le faire. Frères et sœurs, Daniel était intransigeant avec le péché. Maintenant, laissez-moi venir à nous. Nous l'avons dit tout à l'heure, nous sommes dans un royaume qui n'est pas le nôtre. Dans ce royaume de la terre, il y a également quelqu'un qui règne. La Bible dit qu'il est le prince de la puissance de l'air. La Bible nous dit que le monde gît sous le malin. Le roi de ce monde, mon frère, ma sœur, comme le roi du temps de Daniel, va venir te proposer une table couverte de mets. La table de ce monde est prête pour que tu t'y serves et pour que tu t'y salisses. Maintenant, tu es comme Daniel. Tu es face à des choix. Tu peux ou céder ou alors, eh bien, résister. Avons-nous une conscience aussi aiguë que Daniel du péché? Avons-nous une conscience aussi aiguë de l'impureté? Avons-nous une conscience aussi aiguë de ce que le diable peut mettre devant nous? Et avons-nous la même détermination? La question est posée à chacun d'entre nous. La conscience de ce qui est pur et de ce qui est impur, mes amis, me semble avoir baissé, même dans notre société. Puis-je m'adresser aux gens de plus de 50 ans? Dites-moi ce matin. Lorsque vous voyez certaines choses aujourd'hui que tout le monde accepte, même les chrétiens. Lorsque vous regardez autour de vous certaines affiches, lorsque vous entendez les gens parler, est-ce que ces choses-là auraient été imaginables il y a 50 ans? Inimaginables. C'est donc que le niveau moral a baissé. C'est donc que se produit un autre phénomène. Un drame, l'Église de Jésus-Christ s'est habituée au péché. Comme Lot, qui vivait à Sodome, s'est adapté à Sodome, s'est habitué à Sodome. Évidemment qu'au départ, Lot a dû être choqué par l'homosexualité de Sodome, mais il s'est habitué. Il s'est habitué, et je vais vous le prouver, il va être atteint au point où lorsque les anges viennent chez lui et que les hommes de Sodome voulaient forcer la porte pour s'emparer de ces hommes afin, entre guillemets, de les connaître. Et quand il est parlé là de connaître, je rappelle que c'était avoir des relations sexuelles avec eux. Voilà la réaction de Lot. Lot dit à ceux qui étaient dehors, « Laissez ces hommes tranquilles, j'ai encore deux jeunes filles vierges et je vous les donne. » Un père qui livre ses filles, permettez-moi l'expression, à des chiens. Un homme qui a fréquenté Abraham. Un homme qui a grandi à côté d'Abraham. Un homme qui a été béni par le ministère d'Abraham. Cet homme-là va tellement s'habituer au monde environnant. Oh, je ne dis pas qu'il a abandonné Dieu. D'ailleurs, plus loin dans le Nouveau Testament, il est parlé de lui. Mais il s'est habitué au péché, à la dépravation la plus profonde. Il y a 50 ans, vous auriez été choqués par ce que vous voyez aujourd'hui tous les jours. Puis-je vous lire un texte? J'aimerais vous lire un texte. Il s'intitule ceci. On disait autrefois, pudeur, on parle maintenant de sexualité refoulée. On disait autrefois dégoûtant, on parle maintenant de maturité. On disait autrefois chasteté, on parle maintenant d'inhibition névrotique. On disait autrefois discipline chrétienne, on parle maintenant de répression malsaine. On disait autrefois vivre dans le péché, on parle maintenant de relations sérieuses. On disait autrefois perversion, on parle maintenant d'alternative au style de vie. On disait autrefois dépravation, on parle maintenant d'expression de la créativité personnelle. Savez-vous que même certains styles de pornographie font partie de la culture? C'est de l'expression de créativité personnelle. On disait autrefois irresponsabilité morale, on parle maintenant d'être libéré. Nous, on est libres. On disait autrefois complaisant envers soi-même, on parle maintenant de réalisation de soi. On disait autrefois une bonne discipline, on parle maintenant d'enfants maltraités. Un jour, l'un de mes petits garçons est venu, il dit « Papa, maintenant, je connais le numéro de téléphone des enfants maltraités. C'est le 100, je ne sais plus combien. 119. J'ai dit, ça ne changera rien, les baffes auront la même efficacité. Avec 119 ou pas. On disait autrefois valeur chrétienne, maintenant on parle de fondamentalisme. On disait autrefois vos droits, on parle maintenant de discrimination illégale. Bien-aimé, il n'y a pas longtemps de cela a été proposé un amendement qui devait amener le fœtus à être reconnu dans le sein de sa maman comme un être à part entière. Dans notre pays, des lobbies se sont levés, des voix se sont levées. Chers téléspectateurs, je le dis également pour vous. Maintenant, l'on est en train de faire marche arrière parce qu'on craint les réactions. J'avais moi-même, avec d'autres, envoyé ma signature de soutien à cet amendement. Nous sommes aujourd'hui en plein paradoxe et en pleine folie. Si l'enfant n'est pas reconnu avant qu'il est né, alors dites-moi à quel moment il est un enfant. Si l'enfant n'est pas reconnu dans le sein de sa maman, alors pourquoi encore donner des primes du troisième mois, du sixième mois? Si l'enfant n'est pas reconnu en tant que tel, le problème qu'a notre société aujourd'hui, je vais vous dire lequel elle est, il est. Elle doit choisir entre le péché et la vérité. Elle doit choisir entre le meurtre que représentent des milliers d'avortements et la vie. C'est cette société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. C'est dans une société comme celle-ci, avec des différences certainement, que Daniel s'est positionné par rapport à la souillure. Mon frère, ma sœur, ce matin, lorsque ma femme était enceinte, l'enfant a existé dès le premier jour. Pouvez-vous m'imaginer ne pas reconnaître un enfant alors qu'il bouge dans le sein de sa maman ? Pouvez-vous imaginer ne pas reconnaître un être vivant à part entière ? Imaginez ce que cela signifie. Ensuite, que les choses ne soient pas simples par rapport aux praticiens, aux chirurgiens, etc. Ça, c'est autre chose. Je ne rentre pas dans ce débat-là, il ne m'appartient pas, il est trop complexe. Mais nous sommes dans une société qui est arrivée au stade où pour lui permettre de vivre dans le péché, dans la luxure et d'avorter n'importe comment, on oublie le droit à l'enfant dans le sein de sa mère. Et aujourd'hui, le sein de la maman est peut-être devenu l'endroit où l'enfant est le plus en danger dans le monde. Chaque année en France, sont avortés 200 000 enfants. C'est une ville comme Mulhouse qui est rayée de la carte chaque année. Bien-aimés, nous nous sommes trop souvent habitués à cela. Je vais continuer. Me donnez-vous encore l'occasion de continuer quelques minutes. Je ne terminerai pas ce message ce matin, mais j'aimerais terminer ce point. Chaque jour, frères et sœurs, nous devons nous positionner et nous mettre notre volonté en action. Je prends des exemples. Devant un écran de télévision, devant un ordinateur, regardez ce que Job dit. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. J'avais fait un pacte avec mes yeux, dit Job. Mes frères, avons-nous fait un pacte avec nos yeux ? Mes sœurs, avez-vous fait un pacte avec vos yeux ? Chers amis téléspectateurs, avez-vous fait un pacte entre ce que vous autorisez à vos yeux à regarder et ce que vous ne regarderez pas parce que vous avez décidé de ne pas vous souiller ? Daniel avait décidé de ne pas se souiller avec de la nourriture qui rentre dans le ventre. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes en train de nous nourrir avec de la nourriture qui passe par les yeux. Le péché, si je devais prendre une image, imaginons-le comme ça. C'est comme si vous aviez un petit cochon au-dedans de vous. Ok ? Plus vous le nourrissez, qu'est-ce qui se passe ? Plus il grossit. Nourrissez-le encore et un jour vous exploserez. C'est-à-dire un jour le péché aura raison de vous. Voulez-vous qu'il disparaisse ? Arrêtez de lui donner à manger. Ne le nourrissez plus. Prenez position. Honorez Dieu par votre comportement. Je l'ai dit mardi soir, j'étais en Allemagne pendant la soirée, au moment où j'ai prié tranquillement, sans imposer les mains, tout d'un coup, des délivrances, une jeune femme qui tombe à terre, des démons qui la quittent. Et puis, elle est bouleversée, d'autres sont bouleversés parce que j'étais là dans un milieu où l'on n'a pas l'habitude de vivre ce genre de choses. Elle vient me voir, elle veut être baptisée. Nous l'avons baptisée au mois de septembre. Au mois de septembre, elle est baptisée là, il y a une prophétie qui vient et qui lui dit, devant toi, il y a encore des moments difficiles, mais lève tes regards vers moi, je viendrai à ton secours. Elle est baptisée là le dimanche. Le dimanche soir, son mari lui avoue qu'il la trompe avec des prostituées. Une jeune femme, trois enfants, ébranlée, effondrée, elle me téléphone, elle me dit « Je ne sais plus quoi faire, dois-je divorcer? Que dois-je faire? Je suis désespérée. » Je lui dis « Persévérez ma sœur, je vais prier avec vous. » Quelques jours plus tard, elle me rappelle. Elle me dit « Pasteur, êtes-vous prêt à prier pour mon mari ?» J'ai dit « S'il le veut. » Elle me dit « Oui, il le veut. » Ils sont venus ici il y a 5 semaines à peu près, le dimanche. À la fin du culte, on va ensemble dans une pièce à l'arrière. Je prie pour cet homme. Dans la pornographie jusqu'ici. Il me dit, vous savez, j'en arrive au stade où ma femme ne me suffit plus. Il me faut autre chose. Je prie avec lui. La puissance de Dieu vient. Il vit une délivrance. Il est complètement secoué par ce qu'il vient de vivre. Et puis ils repartent ensemble. Et là, je reçois une lettre. Et cette femme écrit, elle m'a donné des nouvelles, je vous passe la plus grosse partie de la lettre, mais elle dit, je peux maintenant comprendre ce que signifie devenir une seule chair. Depuis lors, nous nous levons une demi-heure plus tôt chaque matin, et main dans la main, nous demandons au Seigneur de nous bénir. Nous lisons la parole de Dieu ensemble. Sais-tu, jusqu'à aujourd'hui, je devais subir les moqueries de mon mari et le rejet à cause de ma foi. Maintenant, eh bien, nous sommes un et cette bénédiction s'étend sur nos 3 enfants. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Frères, sœurs, cet homme était lié par ce qu'il regardait, lié par ce qu'il avait laissé entrer en lui. Et il n'est pas le seul. Je sais qu'ici, des hommes et des femmes connaissent la même chose. Tu peux sortir de ton esclavage. Devant les propositions indécentes qui viennent régulièrement, adultère, fornication. Joseph agira. Écoutez ce qu'il est dit de Joseph. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa. Et dit à la femme de son maître, « Voici mon maître, ne prends avec moi connaissance de rien dans la maison. Elle a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi !» Elle était chaude celle-là. Hein? Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Frères et sœurs, encore un homme qui a été utilisé par un Dieu extraordinaire, de manière extraordinaire, parce qu'il était un homme hors de l'ordinaire. Un homme capable de dire non à une femme qui le relançait tout le temps. Il aurait pu se dire, finalement, je suis esclave ici. Finalement, je pourrais me venger de mon maître. Là, je suis rien que le larbin à faire les petits trucs. Bah, si elle veut, rendons-lui service. Et en même temps, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Il aurait pu le dire. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Frères et sœurs, combien de jeunes filles? Il y a des jeunes ici, levez voir les mains. Allez, tous les jeunes en dessous de 25 ans là. 25 ans, levez voir les mains. Non, papa Jean, pas toi. Il ne l'a pas levé, hein, je plaisante. Combien de jeunes filles à qui le jeune garçon, dans le collège, dans le lycée, plus tard, à l'université, vient lui dire, si tu m'aimes, couche avec moi, ce sera la preuve de ton amour. Vous avez déjà entendu ça? Écoutez, j'ai trouvé un petit texte là-dessus. Laissez-moi encore l'occasion de vous le lire. Dans 1 Corinthiens 6, il est dit « Fuyez l'immoralité ». Vous qui nous regardez, faites la même chose, fuyez-le. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est extérieur au corps, mais celui qui se livre à l'immoralité pêche contre son propre corps. Voilà le commentaire. Si un homme vous demande de lui prouver votre amour en commettant l'immoralité, en d'autres termes, en sacrifiant votre pureté, pensez à ces mots d'Abigail Van Buren. Ce n'est pas un disciple des Écritures, mais c'est certainement un disciple de Jésus-Christ. Les jeunes filles doivent prouver leur amour à travers des relations sexuelles illicites autant qu'un éléphant a besoin d'ailes de papillon pour voler. Pourquoi ne pas donner aussi cette preuve d'amour en enfonçant votre tête dans le four d'une cuisinière avant d'ouvrir la bouteille de gaz? Ou pourquoi ne pas lui prouver votre amour en jouant avec lui à saute-mouton sur une autoroute fréquentée? Y a-t-il davantage de risques? Quiconque vous demande de vous prouver votre amour de cette manière est en train de vous prendre pour la plus grande imbécile de la terre. Une telle preuve d'amour est une pure invention d'hommes qui ne pensent qu'à satisfaire leur libido malsaine. Vous aime-t-il réellement? Il vous demande de commettre un acte immoral, de perdre votre vertu, de gaspiller vos dons et votre respect personnel, de risquer votre réputation, de risquer de tomber enceinte, de risquer votre vie en attrapant une maladie? Prouver ainsi votre amour est la plus grande plaisanterie du siècle. Un tel homme n'est intéressé que par son propre plaisir. Il veut satisfaire ses fantasmes à vos dépens. Un homme qui aime réellement une femme préférerait plutôt se couper un bras que de lui faire du mal, peut-être pour toujours. N'est-ce pas, Dominique ? L'attitude de l'homme égoïste prouve son absence d'amour. Vite ! Il se fatiguera de vous, vous laissera tomber, prendra ses affaires et ira chercher ailleurs une autre victime. Refusez de vous laisser traiter comme une marchandise qu'on délaisse du jour au lendemain et tournez-vous vers Jésus qui ne vous laissera jamais tomber. Confiez-lui votre avenir et le choix de votre compagnon. Moi j'aime ça. Je suis prêt à photocopier ça à toutes les jeunes filles. Et chaque fois qu'il y en a un qui vient, tu lui lis ce poème. Tu lui dis j'ai un poème pour toi. Écoute bien mon vieux. Quand tu auras fini de lire le poème, tu sauras si t'aimes vraiment ou pas. On a un jeune garçon dans le groupe de jeunes. Je tais le nom. Mais voilà ce que ce jeune a vécu. Il était invité à une fête par un de ses amis. Et lorsqu'il arrive à la fête, bon, d'abord, il n'avait pas envie d'y aller. Il y allait parce que c'est un copain de classe, etc. Il est allé à la fête. Et puis, la soirée, ça s'est un peu dégradé. L'alcool, on fait que les choses sont plus... n'ont plus été aussi saines que cela. Lui n'avait pas bu, c'était très clair. Étant son ami lui avait dit de dormir là, il s'est dit, bon, avant que ça se gâte, je vais me coucher. Et puis, étant très clair, il est allé se coucher tranquillement, il s'est mis dans son lit. Voilà qu'une jeune fille rentre, se déshabille pour se glisser près de lui. Et ce jeune homme fera la chose suivante. Il se lèvera, prendra ses affaires et retournera à pied chez lui à la maison. Aujourd'hui, il y a encore des jeunes courageux. Aujourd'hui, il y a encore des jeunes qui disent « Moi, je veux être différent du reste. Moi, je veux être différent du reste, frères et sœurs. » Je terminerai par ce point-là. Il y a des défis tous les jours, même dans notre manière de nous habiller. Même dans notre manière de nous habiller. J'étais déjà aux infos et puis je regardais, voilà le créateur Intel, voilà de comment seront habillées les femmes l'année prochaine. Alors je me dis, est-ce qu'il voulait dire voilà comment elles seront habillées ou voilà comment elles seront déshabillées? On ne sait plus. Franchement, vous savez encore? Chaque jour, sœur, chaque jour, frère, nous avons des défis dans notre manière d'être. Vous savez, souvent on pense trop à la sœur. Ah, mais telle sœur, vous avez vu son habillement, etc. Ce matin, j'aimerais parler au mari. Marie, tu es le chef de ta femme. Tu as une responsabilité. Tu es le sacrificateur de ta maison. Il y a des maris qui poussent leur femme à cela. Il y a des maris qui les encouragent. Il y a des maris qui sont derrière, qui disent « vas-y, vas-y ». J'ai des points d'interrogation. Mes sœurs, j'aimerais dire, vous pouvez être moderne, vous pouvez être tout ce que vous voulez, vous pouvez être belle, mais vous n'avez pas besoin d'être provocante. Ça, c'est des mets qui viennent de la table du roi de ce monde. Je me garderai toujours de juger. Vous savez, Même au milieu de nous, parfois arrivent des personnes qui sont là pour la première fois, d'autres pour la deuxième fois, d'autres pour la troisième fois. Mon père me dit toujours, dans le passé, il y a des années de cela, est arrivée une jeune femme. Alors c'était court partout. C'était le genre de jupe qui commence jamais, qui s'arrête tout de suite. Bien. En haut, la même chose. Il y avait une vue sur le grand ballon. Et bien sûr, il y a eu des remous, des réactions, des gens. Et je comprends les frères et sœurs, je peux comprendre. Mais il faut considérer d'où viennent ces personnes. Cette femme était prostituée. Puis elle a commencé à venir. Et le papa Jean s'est interdit de lui faire la morale. Je laisse. Il ne lui fait pas la morale. Et plus elle s'est approchée de Jésus, plus elle a été touchée. Plus elle a été touchée, plus elle a changé. Un jour, elle est arrivée, elle était clean. Frères et sœurs, maintenant, si une sœur qui a 20 ans de vie chrétienne commence à voir ses habits se rétrécir, je peux vous donner les bons degrés de lavage pour que ça n'arrive plus. Frère, vous savez, vous pouvez me dire, il est ringard, il est ringard. Je ne suis pas ringard. Moi, je voudrais voir la gloire de Dieu au milieu de nous. Moi, je voudrais voir des choses extraordinaires avec vous. Je voudrais le voir à l'œuvre au milieu de nous. Bien-aimés, je termine avec une phrase que j'aimerais que vous gardiez. Je pourrais parler de la manière de manger, de boire. Combien parfois sont malades de trop manger, de trop boire. Encore une fois, ce que l'ennemi nous propose. Pourriez-vous garder cette phrase en souvenir ce matin ? Voulons-nous, comme les disciples, comme Daniel et ses amis, une onction de l'Esprit sur nous qui soit extraordinaire ? Menons une vie qui soit aussi extraordinaire. Voulez-vous, frères et sœurs, vivre ce qu'ils ont vécu ? Menons une vie extraordinaire. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais plus du monde. Pourrions-nous nous lever ensemble ? C'est la première partie de mon message, chers amis téléspectateurs. J'aimerais vraiment vous encourager ce matin. Et quand même, ce message pourrait vous bousculer. J'aimerais vous encourager à regarder à lui. Il viendra vous secourir et vous bénir.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.